Chapitre 43. En traçant la route, Charcot venait d'expliquer la situation à Gecko. Il était tard, mais il fallait des hommes pour une intervention en urgence absolue. Le chef de la crime s'était connecté au signal et avait évalué le caractère critique de la situation. Il avait promis de faire au plus vite et ordonné à Charcot de ne pas intervenir seul. Puis il avait raccroché. Sur l'écran, le point du GPS descendait en direction de Paris sur l'autoroute A1. Le véhicule du punisseur évoluait au niveau de Compiègne et poursuivait sa route à une vitesse de 140 km/h. Charcot, de son côté, remontait depuis Sceaux vers le sud de la capitale avec une décision à prendre au moment de s'engager sur le périphérique. Est ou ouest? Il choisit l'est. Franck ne croyait en rien. Aucune divinité, nul esprit supérieur. Mais alors qu'il s'agrippait à son volant, il marmonnait des prières. Il suppliait le ciel ou un dieu quelconque que ces hommes soient vivants. Mais des détonations résonnaient dans sa tête et une scène tournait en boucle devant ses yeux. Nicolas et le jeune Alex, assis dans leur voiture, prêts à reprendre la route et sans doute fiers de leur coup. Une ombre qui surgit sur le côté, l'arme braquée, et qui crache la mort à travers la vitre. Des éclairs dans la nuit, des giclées rouges et des éclats d'eau répandus dans l'habitacle. Puis le silence de l'après-massacre dans la brume de la poudre des munitions. Charcot poussa un long cri, seul dans sa voiture, ses nerfs lâchés. Pas Nicolas, pas lui. Lui enlever son capitaine de police revenait à lui arracher un bras, lui enfoncer une flèche dans le cœur et tourner pour qu'il saigne encore plus. Nicolas était plus qu'un partenaire. Il était un élément indispensable de sa vie, de son équilibre. Avec Lucie, il lui devait leur liberté. Charcot refusait qu'on lui vole un membre de sa famille. Pas de cette façon, abattu dans une bagnole de flic par une nuit froide d'automne, le cerveau en bouillie sur le pare-brise. Non, non, non. Il hurlait encore dans sa voiture. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Parce que depuis une demi-heure qu'il dépassait les portes du périphérique dans une circulation fluide, Italie, Bercy, il attendait le coup de fil de Lucie, des pompiers et même de la relève qui aurait déjà dû arriver sur l'île. Le pire semblait plus que jamais probable. Personne n'appelait parce qu'il y avait eu un carnage. Il était 23h20 quand un groupe d'intervention partit du 36. Le véhicule du punisseur avait quitté l'A1. Il venait de s'engager sur l'A104 vers l'est en direction de Villepinte. Charcot se rapprochait 20 km plus bas, englué dans les tentacules des sorties et des embranchements d'autoroute. Sonnerie. Le prénom de Lucie s'afficha. Charcot retint son souffle et se rendit compte à quel point sa main tremblait lorsqu'il décrocha.
« Franck, ils ont retrouvé Alex Tassin le long du chantier naval, vivant. Il était inconscient, visiblement frappé au crâne, mais il vient de reprendre connaissance. Ils l'emmènent à l'hôpital. »
Charcot déglutit. Il connaissait chaque intonation de la voix de sa femme. Il savait quand elle n'allait pas bien.
« Et Nicolas ?»«
Nulle part. » La portière de la voiture était ouverte, son portable à terre. Il pense que le punisseur l'a emmené.
Charcot sentit le désespoir l'envahir et eut envie de fracasser son téléphone. Il songea à la façon dont Chevalier était mort, aux souffrances qu'il avait dû endurer sous le joug du punisseur. La seule chance était d'interpeller le tueur avant sa destination finale. Mais d'après les indications, Charcot se trouvait encore à 20 minutes de lui, et c'était pire pour l'équipe d'intervention. La petite voix dans l'écouteur.
« Je ne veux pas que tu prennes des risques, »
fit Lucie.
« Quoi qu'il arrive, tu attends la BRI. Franck, tu m'entends ? Tu attends les renforts. »
« Je ferai gaffe. »
Charcot raccrocha sans attendre de réponse. Lorsqu'elle rappela juste après, il s'efforça de ne pas prendre la communication. Sa promesse de ne pas prendre de risques volait si vite en éclats. Chaque minute comptait. Si le punisseur avait emmené Nicolas, peut-être envisageait-il de le faire parler. Comprendre par quel biais les flics étaient remontés jusqu'à lui. Dès qu'il le saurait, ou si Nicolas s'entêtait à garder le silence, il le tuerait. Charcot sortit du périphérique à la porte de Bagnolet, resté environ 10 kilomètres entre le punisseur et lui. Mais désormais, les deux véhicules avançaient dans la même direction et il était donc plus difficile de réduire l'écart. Aux dernières nouvelles, la BRI suivait à 10 minutes derrière. Les départementales, les autoroutes s'étaient vidées de leur flux de métal brûlant de la journée. À fond sur la voie de gauche, Charcot s'était fait flasher 3 fois. L'angoisse lui creusa le ventre quand il vit apparaître sur son écran l'énorme tache verte vers laquelle filait le punisseur. Ce fut à ce moment-là qu'il comprit. La forêt de Bondy. Le tueur revenait aux origines, sur les lieux de son crime.